Vous m'entendez, Sonia David?
Ah bah oui, oui, mais la fête n'est pas finie, elle continue, Augustin.
La fête n'est jamais finie avec vous.
Non, jamais, jamais. Il y a John Rachid à côté de moi qui voulait saluer Aurel San.
Bonjour. Ah,
salut.
Ça va? Ça roule?
Oui, très très fort, très très. J'étais sur affaire de famille là, des fêtes de famille
ah,
tout à l'heure.
Ah, tu l'as entendu?
Incroyable.
Voilà, donc là on va faire l'émission, Sonia, parce que sinon on est vraiment entre nous là.
Salut les amis, Augustin,
salut.
À lundi.
À lundi.
Salut.
Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MGV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Il est 9h40 tout pile sur France Inter, dernier instant M de la semaine.
Vous êtes en direct, allez-y.
Combien d'Algériens sont morts noyés dans la Seine ou sous les coups de matraque dans les rues de Paris le 17 octobre 1961? Il n'existe pas de chiffre officiel. La mémoire française en ces temps de guerre d'Algérie est faite de flou, de trous et de tabous. Et si une nouvelle génération voulait exhumer cette mémoire, la mettre en mots et en images, le faire avec sa culture à elle, avec ses vannes à elle et surtout avec son média à elle, eh bien ça donnerait un court-métrage né sur YouTube pour YouTube et conçu par des youtubeurs.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour John Rachid.
Bonjour.
Alors John Rachid, en fait, c'était le JR de Dallas à vos débuts, c'est ça? C'était.
Bravo, c'est exactement ça.
C'était Dallas parodié avec l'accent du bled.
C'est ça. J'ai pris JR, ça a donné John Rachid.
Voilà.
Mais très peu de personnes le savent, bravo.
Ah bon, d'accord. En fait, c'est Mohamed Kefti.
Oui,
donc bonjour
Kefti.
Kefti. Mais ouais, je vais y arriver.
J'ai l'habitude. Ouais,
c'est voilà, voilà. Bon, bonjour Mohamed Kefti.
Bonjour.
Kefti, merde.
Kefti. Non, on me le fait depuis le collège, c'est pas grave. J'ai l'habitude.
Allez, jour de pluie, c'est donc ce court métrage dont je parlais, 17 minutes pour se souvenir du 17 octobre, en ligne, gratos, depuis le 17 octobre, évidemment, jour anniversaire. On en parle dans quelques minutes. Actu.
Stevie, tu es mon golden buzzer, hein, et je le regrette pas, parce que s'il y a un numéro qui est absolument incroyable, c'est celui-là. Waouh!
Une semaine avant sa diffusion, M6 enterre la 12e saison de son show Un incroyable talent, suite aux révélations concernant l'un des membres du jury de l'émission, le Québécois Gilbert Rozon, qui fait l'objet d'une enquête de police outre-Atlantique. À Montréal, 9 femmes ont témoigné dans la presse, racontant les agressions sexuelles et même les viols dont elles ont été victimes. Il a lui-même démissionné hier de ses fonctions et présenté d'avance en fait ses excuses avant tout procès. Radio-Canada suspend également l'animateur et la chaîne locale au Canada retire de sa grille le célèbre gala de l'humoriste intitulé « Juste pour rire ». La Madeleine du vendredi et hop, on joue dans l'instant M et on gagne ce matin une pièce de Jean Anouilh rééditée par Lina. C'est Madeleine Renaud, c'est Jean-Louis Barrault et tout et tout. Soyez le premier à m'envoyer un mail à cette adresse que vous connaissez par cœur maintenant, l'instant M tout attaché à radiofrance.com. Il vous faut reconnaître ce cinglé fini. Je vous préviens, hein, grand moment d'hystérie au micro avec sa voix de stentor.
Voilà! Emmanuel Petit qui marque, l'équipe de France qui est championne du monde, c'est officiel, c'est sûr, c'est certain, il ne peut plus rien nous arriver.
Ah, mais qui est ce dingue? L'instant M à radiofrance.com. Je voulais vous demander, vous, John Rachid, si vous aviez un souvenir de radio, un souvenir de télé qui vous suivait, qui vous poursuivait, tout ça. En fait, je voulais vous poser la question, et puis non, c'est venu tout seul. C'est-à-dire que quand on remonte votre fil Twitter, il y a du Dragon Ball partout,
oui.
Partout.
Oui.
Sangoku.
Ouais, complètement. Je suis complètement dingue de cette série depuis tout petit. En fait, c'est la seule série qui m'a suivi de petit jusqu'à maintenant. Donc,
ça
continue à être diffusé.
Génération Club Dorothée.
Ouais, ouais, très Club
1990.
Dorothée. 1990.
Ouais, à fond. Sangoku, c'était donc la queue de singe, ouais. Le petit bonhomme avec sa force
ouais, qui a grandi après.
Et... voilà. Est-ce que vous vous souvenez que quand ça a été diffusé dans le Club Dorothée, dans la fin des années 80, ça a déclenché une polémique?
Oui, bien sûr, avec Ségolène Royal qui est monté au créneau et tout.
Sur la violence des mangas, des dessins animés japonais.
Ouais, ouais, c'était injustifié parce qu'on n'est pas plus con que les autres aujourd'hui. Donc, c'était n'importe quoi. Je préfère largement ça que des dessins animés abrutissants d'aujourd'hui où ça parle anglais pour soi-disant pédagogiquement. Mmh. Mais c'est pas mieux que Dragon Ball Z, c'est sûr.
Oui, c'est la petite exploratrice là que ouais. Vous visez. D'accord. D'accord. Cyril Petit, bonjour Cyril.
Bonjour Sonia.
Alors Cyril, rédacteur en chef central au JDD, à l'heure où la parole se libère et pèse plus que jamais sur Twitter, la question surgit notamment aux États-Unis. Un journaliste peut-il tweeter comme n'importe qui? Le fait est que d'ailleurs, les journalistes tweetent beaucoup, hein, mais vraiment, vraiment beaucoup.
Oui, alors c'est une drogue hein, pour beaucoup d'entre eux. Les journalistes sont eux-mêmes devenus des marques sur les réseaux sociaux. C'est plus le média auquel ils appartiennent qui compte, mais c'est leur personne. Un exemple, quand vous suivez Jean-Michel Apathy sur Twitter, c'est environ 430 000 abonnés. Peu importe qu'il travaille à RTL, Europe 1, France 5 ou France Info, il a d'ailleurs fait les 4 en quelques années, vous suivez Apathy, libre, cash et faisant tweet de tout bois. En son nom à lui et pas au nom du média pour lequel il travaille,
évidemment. Donc aux États-Unis, le New York Times vient de siffler la fin de partie. Nouvelle charte pour l'utilisation des réseaux sociaux. Des règles très strictes, mais dans un contexte en fait très particulier.
Oui, alors en plus, ça pourrait faire des émules aux États-Unis. Le président Trump insulte sur Twitter les journalistes qu'il juge de parti pris. Donc le New York Times donne la consigne de ne pas entrer dans ce jeu-là, de rester impartial, de rester impartiaux pour ces journalistes, de privilégier les faits aux commentaires, parce qu'à travers leurs tweets personnels, c'est aussi le New York Times dans sa globalité qui s'exprime. Alors ça a fait des émules. Hein. Hier soir, c'est le Wall Street Journal qui a également publié ses recommandations avec une nouveauté. On invite les journalistes à tweeter moins.
Voire à ne plus tweeter. Et en France, justement, est-ce qu'il y a des règles comme ça qui sont édictées par les grands médias ?
Beaucoup moins, ou peut-être pas encore. En presse régionale, seuls quelques titres comme Ouest France, L'Union, La Voix du Nord ont des chartes, mais beaucoup plus succinctes. Mm-hmm. C'est l'agence France Presse qui a le plus travaillé sur le sujet, avec un court guide pour ses 1400 journalistes. En gros, ça dit « Comportez-vous sur Twitter » comme dans vos dépêches, comme des pros. Alors c'est une position inverse que d'autres tiennent, par exemple Olivier Sioux, le rédac-chef adjoint du service politique de France 2, qui lui dit « Je mets ma subjectivité dans mes tweets, je garde mon objectivité pour mon taf ».
Voilà, et je vous invite à aller regarder le fil Twitter d'Olivier Sioux, parce qu'il est très, très, très fleuri et très cash. Donc parfois ça dérape.
Oui, alors ça dérape beaucoup même. On se souvient du premier tweet limogeage en 2012. Pierre Salviac avait perdu son statut de chroniqueur sportif à RTL après un tweet injurieux envers Valérie Trierweiler. Récemment, le directeur du Monde, Jérôme Fenoglio, s'est adressé à toute la rédaction rappelant les effets dommageables que peuvent provoquer les comportements de certains journalistes sur les réseaux sociaux. Mais à part ça, pour l'instant, en France en tout cas, assez peu de règles, si ce n'est celle-ci que beaucoup de responsables de médias sociaux m'ont donné. C'est une règle qui a été édictée par le New York Times déjà en 2011. Ouais. Hein, et ça se résume en quelques mots. Don't be stupid.
Don't be stupid. Eh ben voilà. Une réaction, John Rachid.
Non, moi je trouve que Twitter c'est bien, mais aussi c'est aussi mauvais parce que ça donne des fois des réactions de bars, de PMU quoi. Des fois on est là, on tweet ce qu'on pense tout de suite et c'est pas forcément bien tout le temps quoi.
Mais justement on va parler que de ça hein, aujourd'hui avec vous, c'est-à-dire comment exprimer ce qu'on pense et comment servir des réseaux sociaux pour dire ce qu'on pense. Est-ce qu'on a un gagnant pour notre jeu? Je regarde mon équipe. Non, pas encore. Olivier, voilà. Et ben on félicite Olivier qui a reconnu l'immense. Jacques Vendroux, un jour de 1998.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
John Rachid, invité de l'instant M. John Rachid, vous le connaissez, il est Karima, vu 2 millions de fois.
Comme si on était tous des connasses matérialistes dans une société consumériste happée par les sirènes de la luxure occidentale. Ah, j'ai rien compris à ce que je viens de dire, la vie de ma mère ça fait mal. Faut que j'arrête d'en regarder Tariq Ramadan, moi. Oh, Tariq Ramadan, trop beau gosse. Oh, BG puissance 4.
Elle est née comment, cette pétasse robeux matérialiste? Puisque c'est comme ça qu'elle-même, elle se définit.
Je m'attendais pas à ce qu'on parle de Karima sur France Inter, mais
bah,
allons-y.
C'est-à-dire que je pense que nos auditeurs ne vous connaissent pas tous, John Rachid.
Malgré vos
millions de followers sur YouTube et sur Facebook, évidemment. Parce que vous faites partie des youtubeurs les plus puissants et les plus regardés.
Karima est née comme ce que je fais à chaque fois, une critique un peu de la société qui nous entoure. Et ce genre de meuf existe vraiment, donc ça m'a fait rire de la caricaturer. Vous avez choisi un passage justement où je caricature, mais en même temps je lance un petit message
sans blague
en disant que elles sont pas toutes comme ça non plus. Voilà.
c'est le bon
passage pour France Inter. Parfait.
Ça, et puis Tariq Ramadan en beau gosse, ouais, franchement ça arrive
pas tous les
jours.
Il est beau gosse.
À quoi ça sert un personnage?
À dire ce qu'on veut dire, en passant par d'autres chemins, en passant par l'humour, parce que quand on prend la parole à la première personne, des fois notre message peut partir un petit peu en vrille, alors que si on le met dans un personnage ou on le met dans une situation ou dans un sketch, le message passe 10 fois mieux, même 20 fois mieux.
Alors vous avez des personnages récurrents, vous avez des sketchs récurrents, vous dézinguez régulièrement le rap, et ça a un succès fou sur YouTube. Vous avez aussi Victor, il explique des mots celui-ci, vu 300 000 fois. C'est peu, hein, par rapport à vos autres vidéos.
Ça plaît moins, ça.
Ça plaît moins, ça.
Que veut dire démagogie ?
Voilà, démagogie, c'est quand on vote pour le président de la République, François Hollande.
Tu confonds avec le mot démocratie, même si, je l'avoue, certains de nos démocrates font parfois preuve de démagogie.
Voilà, ça c'était Victor.
Oui, non, mais ça, ce personnage plaît très bien aux plus âgés, mais les jeunes, ils sont pas forcément, ils sont pas forcément à fond dedans, mais j'aime beaucoup le faire parce que je peux me permettre d'expliquer des mots et l'histoire de France aussi. Il explique un peu l'histoire de France, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas fait.
Voilà, et là aussi, avec les mots et avec l'histoire de France, vous distillez lentement, doucement, discrètement aussi vos messages. Petit à petit, John Rachid sur YouTube, c'est devenu ça, et ça, c'est vu 2 millions de fois.
Non, parce que la première cause de racisme en France, c'est pas les étrangers, c'est les médias. Pourquoi dès qu'un mec fait une connerie, on sort direct ses origines ?
Je suis actuellement devant le domicile de Zahir Amézien, jeune homme d'origine marocaine qui vient de tuer sa femme de 2 coups de couteau. D'origine marocaine.
Vous avez quel âge ?
J'ai 33 ans.
Voilà, vous êtes très vieux pour un youtubeur.
Oui,
vous êtes
vrai.
Très vieux. En fait, Norman n'est pas beaucoup plus jeune que
moi,
vous.
Non, enfin, 30 ans aussi.
Voilà, vous êtes très 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 copains tous les deux. Ouais. On vous voit régulièrement intervenir dans les vidéos l'un de l'autre, etc. Mais quand même, il faut le dire, c'est-à-dire que vous faites partie des ancêtres. Vous avez été les premiers à dégainer. Vous faites partie des pionniers comme Poulpe, etc., etc. Et ces prises de parole engagées, les deux pieds, les deux mains dans la politique et la société, en réalité, elles sont très rares sur YouTube. Vous, c'est venu comment ?
Je m'inspire beaucoup de nos aînés. Mm-hmm. Et pour moi, enfin moi j'étais très fan des Inconnus. Et je sais que les Inconnus, il y a beaucoup de vidéos, il y a quelques messages quand même. Enfin, il y a beaucoup de vidéos, j'appelle ça des vidéos, des sketchs où il y a des messages.
Mais c'est devenu des vidéos aujourd'hui, on les revoit sur YouTube.
Ouais, c'est ça. Ouais. Il y avait beaucoup de messages et tout. Et enfin, je trouve ça naturel. Et alors, je fais pas tout le temps des vidéos à messages. Hein. Il y a des fois des vidéos qui sont complètement débiles et c'est juste pour le rire. Mais je trouve qu'une vidéo où il y a un message reste plus longtemps, touche plus. Qu'une vidéo où je fais juste du sketch, ça m'arrive, hein, je fais des Jean-Claude Van Damme où je fais juste du sketch, il n'y a rien, il n'y a pas de message. Mais je préfère les vidéos où il y a
quelqu'un.
Et
là, d'un seul coup, c'est la première personne. C'est vous qui parlez, c'est je.
Oui, bien sûr.
C'est plus Karima, c'est plus Victor, c'est plus les...
Ouais, dans les médias, ouais, c'est les seuls moments où j'essaie d'être un peu moi-même.
Alors le YouTube politique, en gros, on a regardé, ça donne des vidéos d'extrême droite, le Raptor Dissident, par exemple, des youtubeurs d'extrême droite, avec ces vidéos récurrentes qui s'appellent Expliquez-moi cette merde, qui sont vues entre 1 et 3 millions de fois. Mmh. La Pintaquin, ni l'un ni l'autre ne montrent leur visage d'ailleurs. La Pintaquin est moins vue que le Raptor Dissident, mais bénéficie d'une puissance virale énorme parce que derrière il y a toute la fachosphère.
Je me suis ramassé toute la fachosphère sur un jour de pluie. Hein.
Oui.
Ah, j'ai eu des messages, j'en ferai une vidéo tellement c'est incroyable ce que j'ai eu.
De violence.
Ouais, c'est
jour
très,
de pluie,
très
c'est le court métrage dont on va parler là. Donc, voilà, pour célébrer la mémoire de ce 17.
Ouais.
Et
j'ai eu des réactions parce
octobre
que,
1961.
Comme c'est fort, j'ai eu des réactions géniales, bien sûr c'est génial, mais j'ai aussi une partie de la fachosphère qui est venue me taquiner un petit peu, mais c'était très drôle parce qu'ils sont complètement fous, il n'y a rien à faire avec ces gens en fait.
Voilà, alors il y a la fachosphère. Il y a l'extrême droite sur YouTube, il y a aussi la gauche de la gauche, ouais. Bonjour Tristesse, 200 000 abonnés sur YouTube, Usul, Osons Causer, qui fait des cartons sur Facebook, hein, c'est-à-dire c'est peu d'abonnés sur YouTube, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'abonnés sur YouTube en fait que vous, que Norman, que Squeezie, etc., qui eux montent jusqu'à 10 millions d'abonnés, mais hein, les Osons Causer, c'est entre 2 et 4 millions de vues parfois par vidéo, c'est Danny Caligula, mais en réalité, il y a très, très, très peu de YouTubeurs qui s'engagent. Pourquoi ?
Alors, ceux que vous avez cités, c'est des youtubeurs très très politiques. Moi,
je suis
très loin de tout ça.
Oui, vous êtes très loin de tout ça.
Je suis vraiment dans l'humour et avec des petits messages. Mais alors, les youtubeurs qui s'engagent pas, je comprends très bien parce que ils sont dans le divertissement plus qu'autre chose. Et s'ils ont pas envie de passer des messages, ils en passent pas. C'est comme les chanteurs, c'est comme certains acteurs, c'est comme certains humoristes. Il y en a qui prennent position, il y en a qui ne prennent pas position. Alors, évidemment, en ne prenant pas position, on rassemble un maximum de public parce qu'on prend aucun risque. Mais c'est un choix qu'il faut respecter aussi en fait. Tout le monde n'a pas la fibre engagée quoi. Donc,
et pourtant il y a une vraie demande, on peut donner quand même quelques chiffres. Donc il y a 37,5 millions de Français sur YouTube chaque mois. Les 16-24 ans, ils vont au moins une fois par jour, en tout cas 8 gamins sur 10 en France. Je peux dire gamins vu l'âge que j'ai. Et au printemps 2017, YouTube a publié des statistiques hier. 26 millions d'heures de contenu sur la politique ont été visionnées. Les vidéos sur Emmanuel Macron ont généré 2 fois plus de temps de visionnage que celle de Maître Gims. Parce que Maître Gims, il vous écrase tous, mon cher.
Bien évidemment.
Les vidéos de Maître Gims, 300 millions de vues.
Oui, mais alors la différence avec d'autres vidéos, oui, c'est que Maître Gims, c'est une musique, donc on la replay, on l'écoute, oui, on la réécoute, ce qui fait énormément de vues.
Alors on va parler de jours de pluie, et puis on va en écouter un extrait.
Papier, fiche de paye.
Non mais c'est mes employés italiens, ils parlent pas encore français.
Si. Si, ma che catenaccio, la figa, Luigi Buffon.
Juventus de Turan, con Finocchio, con le petit pantino.
Ia ballati, ia ballati, femminischetti maritati, e sono ballati, buono navigando non mi so. Ia ballati, femminischetti maritati, e sono ballati, buono navigando non mi sono.
Voilà, John Rachid, le youtubeur, devient cinéaste à sa mesure, à son niveau. 17 minutes de court-métrage proposé sur YouTube pour parler de ce 17 octobre 1961. On est en pleine guerre d'Algérie, manif pacifique à l'appel du FLN contre la répression, initiée par le préfet Papon, de triste mémoire, mais aussi contre le couvre-feu qui sévit à Paris depuis le début du mois et qui vise les Algériens. Et en fait, la séquence qu'on entend là, c'est de flics. Alors, il y a un youtubeur parmi les deux flics, il y a aussi Gilbert Melki. Oui. C'est deux flics qui essayent d'arrêter deux Algériens et qui se font passer pour des Italiens. Vous avez eu l'idée comment raconter cette histoire-là?
Alors, déjà, toute l'histoire, j'ai eu l'idée en regardant des reportages, en étant choqué par la situation. Mais cette scène en particulier, ouais, ça part d'un vrai truc, en fait. J'ai entendu dans un reportage un Algérien qui racontait qu'il s'était fait arrêter par des flics et il s'était fait passer pour un Italien, mm-hmm, et ils l'ont laissé complètement tranquille. Donc, j'ai retranscrit cette scène avec un peu d'humour, mais c'est totalement vrai cette scène-là est totalement vraie. Et puis le reste du court-métrage, c'est juste que je suis tombé dessus il y a 5-6 ans. Je me suis dit, mais je connais pas cette histoire, c'est quoi ce délire? Et ça m'a tellement choqué. Et au lieu d'en faire une petite vidéo simple, j'ai mis du temps et j'ai fait un vrai court-métrage, un vrai truc qui restera un peu plus longtemps qu'une vidéo où je parle à ma caméra et je dis, bon, ce qui s'est passé, c'est pas super cool.
Alors, c'est pas super cool. Il y a tout un tas de youtubeurs qui sont vos copains qui passent dedans. L'idée, c'est que vous remontez le temps, vous et un pote, tous les deux, une sorte de fantasme. De gamin, vous remontez le temps, vous arrivez en 61. Et là, la vraie question, c'est est-ce qu'on va changer d'histoire, puisqu'on remonte le temps, ou pas? Est-ce qu'on va changer d'histoire et est-ce qu'on va changer les manuels d'histoire? Et là, il y a deux mômes qui regardent leurs ancêtres et qui disent, mais nous, on avait appris ça à l'école. Au fait, est-ce qu'on avait appris ça à l'école?
Alors, moi, je sais que non. Alors, je sais pas ce que sont les manuels scolaires maintenant, mais nous, on en a absolument pas parlé. Je suis de Lyon en plus, donc c'est peut-être à Paris peut-être, mais à Lyon, non, pas du tout.
Aujourd'hui. Je vous rassure, ça s'appelle l'éducation nationale. Globalement, on doit avoir les mêmes programmes.
D'accord. Moi, j'en ai pas du tout entendu parler, ni mes proches, etc. Alors, je sais pas s'ils en parlent aujourd'hui, mais ok, je pense que le programme scolaire est assez chargé. Ils vont pas faire un mois de cours là-dessus, mais ne serait-ce qu'un petit peu, on n'a pas du tout entendu parler de ça, quoi. On parlait de la guerre d'Algérie, évidemment, mais ouais, dans sa globalité.
Dans sa globalité. Alors, pourquoi vous aviez envie? Vous êtes issu d'une famille algérienne, John Rachid?
Oui.
Vous êtes né en France, vous êtes né en Algérie?
En Algérie, ouais.
Né en Algérie, vous êtes arrivé en France quand?
Ah, un an, j'avais un an.
Voilà. Et de toute façon, le début du court-métrage, c'est algérien ou pas algérien. De toute façon, ces plaies-là, on les sent aujourd'hui. On les sent de manière virulente, de manière douloureuse.
Mais en fait, moi, je trouve que c'est important de se rappeler de ce passé pour pouvoir avancer et construire autre chose et pour pas refaire la même chose, quoi. Et ceux qui y voient, bien sûr, autre chose qu'un message de paix, parce que c'est ce qui se passe dans mon court-métrage, je joue mon personnage, mais en plus con. Donc, et on retourne dans le passé et je me rends compte que, déjà, au début, je suis complètement raciste et con en disant, ouais, c'est un pays de raciste et tout. J'ai beaucoup d'a priori, mon pote aussi. Et le fait de retourner dans le passé, on se dit, putain, mais en fait, on n'a pas trop à se plaindre non plus, ni à justifier, parce qu'on est légitime au même titre que mon pote qui est français, etc. Enfin, c'est vraiment que c'est un message d'unité, en fait. Alors, il y a des flics français qui nous chassent, mais le peuple français nous sauve et nous cache dans son bar. Donc c'est vraiment pour montrer Maurice Papon a fait n'importe quoi et a poussé les flics à tabasser les Algériens, mais le peuple était pas forcément d'accord avec ça. La preuve plus tard avec les manifestations à Charonne, etc. Mais ça, j'en ai pas parlé là-dedans. Mais oui, c'est un message d'unité. À la fin, on voit les deux vieux qui sont main dans la main et qui vivent ensemble. Et c'est uniquement le message de ce truc, quoi. C'est vraiment stop, quoi. Arrêtez de nous faire chier. On peut vivre ensemble et c'est très très bien comme ça.
Et ça s'appelle Jour de pluie.
Oui.
C'est sur YouTube. Merci beaucoup, John Rachid.
Merci à vous.
D'être venu sur France Inter. C'est la fin de l'émission. Je remercie donc toute la bande de l'Instant N, Violaine Ballet, Marion Philippe, Redouane Tella, de m'avoir accompagné toute la semaine. Salut Ali Rebéi.
Salut Sonia
Devillers. Vous saviez que Gaston Lagaffe, il était journaliste?
Oui, si
enfin, il bossait dans un journal,
oui,
dans mais un comme il n'y avait pas moyen de lui faire quoi que ce soit.
On ne sait pas vraiment ce qu'il fait exactement. Ce matin, comment Gaston Lagaffe peut changer notre vie, le faux paresseux Gaston Lagaffe. Si vous êtes attaché à ce formidable personnage qui fête ses 60 ans, 01 45 24 7000.